Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture en ce dimanche matin, 8h30 pour Soleil, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France et disponible ensuite en podcast sur l'appli Radio France. Du 26 juillet au 11 août, puis à nouveau du 28 août au 8 septembre, Paris et la France entière, évidemment, seront à l'heure olympique et paralympique. C'est pourquoi nous ouvrons aujourd'hui la première émission d'une série qui nous donnera chaque mois d'aborder la question du sport dans une de nos émissions. Alors pourquoi parler de sport dans une émission protestante, me demanderez-vous peut-être. Les réponses peuvent être multiples, parce que la Bible évoque le sport, parce que nombreux sont les sportifs croyants, et même protestant, parce qu'au JO, le protestantisme sera aussi présent au travers notamment d'une aumônerie conséquente, avec les autres religions bien sûr, pour accompagner les sportifs qui en font la demande. D'ailleurs, mentionnons aussi que ce mois de mars, devenu traditionnel mois de la Bible, pour faire connaître la Bible au grand public par l'Alliance biblique française et le syndicat des libraires de littérature religieuse, prend aussi les couleurs du sport. Cet événement est l'occasion de faire résonner le texte biblique au milieu de l'agitation des préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques, grâce à ce thème qui détonne, quand Bible et sport font équipe. Et à noter d'ailleurs une très jolie revue qui est éditée sur le sujet. Voilà donc un certain nombre de raisons de parler de sport dans Soleil ce matin, et nous le ferons avec mon invité, le pasteur Vincent Nemperon, qui n'est pas un sportif professionnel, mais qui préside la commission des ministères de l'Église protestante unie de France, union d'Églises, qui propose elle aussi une exposition intitulée « À vos marques pour les JO, protestantisme et sport ». Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors, pas un sportif professionnel, mais quelqu'un qui aime le sport tout de même.
Oui, quelqu'un qui aime pratiquer le sport, qui aime le voir aussi, et qui se réjouit de la perspective des Jeux Olympiques à Paris.
Oui, c'était ce que vous me disiez juste avant. Vous êtes parisien et donc vous avez même déjà des places pour aller voir certaines compétitions, je crois.
Des places pour les Jeux Paralympiques et aussi le soutien d'une des membres de la commission des ministères, oui, qui va disputer le marathon.
Ah, très bien, excellent.
Et que nous irons donc encourager.
Vous êtes avec l'Église protestante unie, en quelque sorte, dans les starting blocks, comme on dit dans le sport, avec cette exposition. Pourquoi avoir fait une telle exposition?
L'exposition, il y a aussi l'aumônerie, vous en avez parlé, oui, tout à l'heure. Et donc un certain nombre de pasteurs de l'EPUDF qui sont engagés dans cette aumônerie. L'exposition, c'est une idée qui est née en mars 2023, bien sûr dans la perspective des Jeux Olympiques, et qui est née dans le consistoire de la Dordogne. Mmh. Et le projet a été achevé en quelques mois, donc avec 10 panneaux qui circulent dans toute la France. Il y a déjà plus de 24 expositions qui ont été vendues et qui circulent. Plusieurs d'abord sur des sports qui ont été créés par des structures protestantes comme le YMCA.
Alors on va en parler de tout ça, on va aller sur le sujet vraiment de ces panneaux, 10 panneaux vous me disiez. Mais avant Vincent Nemperon, je voudrais vous proposer d'écouter quelques versets de la Bible. Nous avons un rendez-vous avec la parole dans l'émission chaque dimanche. Un texte aujourd'hui incontournable quand on évoque le lien entre sport et foi, un lien à entendre par ce qu'en dit ici l'apôtre Paul. C'est dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 9, les versets 24 à 27. Et je vous propose de les écouter au travers de la voix de Mathilde Moutou.
Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres.
Pasteur Vincent Nemperon, dans cette traduction, alors en nouvelle français courant, on a comme terme utilisé le stade, le prix, les athlètes, l'entraînement, la discipline, la course, la couronne, le but, le boxeur, le corps, la maîtrise et même la disqualification. On est à 100% dans le vocabulaire sportif d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Ça vous parle de quelle façon, ce texte de Paul ?
Ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle du sport, il parle de la boxe, il parle de l'athlétisme, il en parle de façon quand même largement positive, donc à travers les notions d'effort, de compétition, de discipline. Mais au fond, il ne parle pas de sport, là.
Oui,
c'est il s'en métaphore. Sert comme allégorie pour parler de la foi.
Tout à fait.
Et donc, il se sert de ce qu'il y a de positif dans le sport pour parler de cet élan, de cette discipline, donc en matière spirituelle.
Alors nous, on va aller un peu plus sur le thème du sport, précisément. Je lis sur le panneau 8 de votre exposition, le protestantisme est attaché à ce que le sport peut apprendre sur soi, l'effort, le dépassement de soi, l'importance de la discipline, sur l'autre, respect de son corps, reconnaissance de sa force et de sa supériorité, et sur Dieu, louange pour le corps, pour la joie du jeu, des autres et pour la création. Il y a tous ces aspects-là à entendre un peu aussi, parfois métaphoriquement, grâce au texte biblique.
Tout à fait, et le protestantisme va essayer de valoriser ce qu'il y a de positif pour l'individu, mais aussi pour la société dans le sport. L'individu, c'est à la fois prendre soin de son corps, c'est prendre confiance en soi, et pour la société, c'est des règles qui sont respectées. Et on peut dire que le protestantisme a participé, il n'a pas été le seul, mais il a participé à une sportification de jeux qui existaient au Moyen-Âge. Je pense par exemple à la Sioule, qui a été un des grands jeux du Moyen-Âge, souvent violent, et que le protestantisme a transformé en rugby.
En rugby, voilà, c'est ça.
Et qui donc maintient cet engagement physique, parfois total, tout en imposant des règles. Et ces règles, non seulement sont valables pour le sport, mais doivent être ensuite pratiquées dans la société.
Alors j'ai un petit son à vous faire écouter tout de suite, et on va enchaîner, vous allez vite comprendre pourquoi. YMCA, vous avez déjà dit le sigle tout à l'heure, c'est un mouvement protestant, les YMCA, le plus ancien et le plus important mouvement associatif dédié à la jeunesse au monde. Alors en France, on l'a appelé longtemps les UCJG, Union Chrétienne de Jeunes Gens, mais je crois qu'ils ont repris le terme YMCA France aujourd'hui. Et ces YMCA, avec donc le protestantisme, vont être à l'initiative, à la création même de plusieurs sports, on ne le sait pas forcément. Et puis, il y a aussi un lieu à Paris dont on parlera dans quelques instants également. Alors, en parlant des sports, pour commencer, il y a le basket et le volley. Et non sans humour, vous présentez le basket comme un sport d'hiver, car c'est d'abord une histoire de météo que la création de ce sport par les YMCA aux États-Unis.
Tout à fait. Sur la côte est des États-Unis, souvent en hiver, il peut faire très froid. Et donc, des sports en extérieur sont rendus difficiles. Il y a donc l'idée de créer un sport qui peut se pratiquer à l'intérieur, qui est aussi un sport collectif où personne ne peut avoir l'illusion de remporter la victoire tout seul. Où la force physique, bien sûr, est importante, mais n'est pas déterminante. Il faut aussi beaucoup d'habileté. Il faut un esprit collectif important.
Là, on retrouve encore ce côté métaphorique. Alors, il y a de l'action, il y a du sport, là, concrètement, mais avec des valeurs qui l'accompagnent. Et c'est comme ça que le réseau international YMCA va donner au basket de se répandre très vite. Dès 1892, Sanda Berenson de la YMCA Northampton permet même aussi aux femmes de se l'approprier. Et ça, on va le retrouver régulièrement, ce côté aussi, le sport qui n'est plus réservé qu'aux hommes, mais aussi qui est partagé par les femmes dans le
quasiment tout de suite, parce que le basket est inventé en 1891, et donc dès l'année suivante, il y a des compétitions de femmes qui jouent au basket. Et en 1893, le basket arrive en France par les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens.
C'est ça. Et alors, il va y avoir un lieu qui va devenir emblématique, je le disais, et qui est toujours là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Théâtre Trévise, parce qu'il y a un théâtre, mais avec lui tout un ensemble de salles et de lieux de sport. Il y a une piscine. C'était la première piscine couverte en France, il me semble. Et puis il y a un terrain de basket qui est le plus vieux terrain de basket au monde, en fait.
Tout à fait.
Alors, ce lieu existe toujours à Paris, il peut être visité, mais j'ai appris qu'il y avait un problème avec le parquet, que des lames de ce parquet sont actuellement à adopter, et toute une campagne est faite autour de ça. Cette salle a besoin d'être restaurée, et pour financer ces travaux, les lames du parquet sont adoptables, donc 2024 lames, en référence au JO de Paris 2024, sont à adopter sur le site baptisé adopteunelame.com. Alors, j'ai été glaner tout ça sur les panneaux de votre exposition. C'est une opération originale qui a séduit, entre autres, déjà le basketteur Rudy Gobert, qui a adopté la lame 27 en clin d'œil à son maillot, et puis le violoncelliste Gauthier Capuçon, la lame 1701, année de son instrument. Donc voilà, vous pouvez aussi adopter une lame. Vincent, n'hésitez pas.
Je vois que vous avez lu avec attention l'exposition.
Alors, on disait le sport est valorisé par le protestantisme, mais on peut aussi tout à fait légitimement, alors l'exposition ne l'évoque pas, mais être un peu critique aussi face au sport en tant que croyant, en tant que protestant. C'est quelque chose qui n'est pas visible dans l'exposition, Vincent, mais qui est aussi à entendre, je crois.
D'abord, tout ne pouvait pas être mis dans l'exposition. Il y aura une autre exposition sur sport, protestantisme et Bible de l'Alliance biblique qui mettra par exemple plus l'accent sur les textes de la Bible. Mmh. Il y a des critiques communes, je vais le dire, pas spécifiquement protestantes. Quand on parle de la triche, de la violence, du dopage, d'un nationalisme agressif. Mais il y a des critiques plus particulières que peut faire le protestantisme sur d'abord une valorisation du corps qui serait aux dépens du reste, qui serait aux dépens de la pensée, qui serait aux dépens de la spiritualité. De la même façon qu'on a pu reprocher donc aux chrétiens de mépriser le corps. Là, actuellement, on est dans une société qui survalorise l'apparence. Je pense aussi à la pression destructrice, notamment de la compétition, et qui peut être vécue très positivement par certains, mais de façon destructrice, notamment par des plus jeunes.
On entendra dans une autre émission consacrée au sport un extrait d'une interview que je viens de réaliser avec Charlotte Ménière, qui était une jeune sportive nageuse qui faisait de la nage libre et qui est justement par la pression, par tout ce qui est là en tant que jeune sportive autour, a connu de graves difficultés de santé, s'en est remise, mais qui justement témoigne autour de ça.
Et on peut, mais avec d'autres, parler de l'impact écologique aussi des compétitions, de l'empreinte carbone. Et peut-être aussi, et là ça serait plus spécifiquement protestant, puisque l'un des principes du protestantisme c'est à Dieu seul la gloire, c'est une forme de glorification, presque divinisation de certains athlètes.
On parle des dieux du sport.
Oui, on parle des dieux du sport, du stade. On parle de la grande messe des sportifs, donc au moment des Jeux Olympiques. Et il y a une parole, alors dans un langage qui peut paraître un peu désuet, mais qui, je trouve, résume bien la pensée protestante. La gymnastique, le sport et les jeux, les courses et les camps recèlent des trésors moraux. Ce sont des raies de lumière, mais le soleil reste l'évangile.
Une courte pause musicale dans Soleil, rendez-vous protestant, avec le dernier titre du collectif Cieux ouverts, qui fait sens avec le thème de cette émission, Victorieux. Et puis on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de sport.
Attendu en ce lieu d'intimité, tu me dévoiles ta grandeur, œuvre d'art de l'univers et ton amour pour mon cœur. Il m'a suffi de lever mon regard, en un instant tout le reste a disparu. Pour mes peurs, il n'y a plus aucune place, car ton esprit dévorant est répandu.
Le collectif Cieux ouverts avec Victorieux, une victoire qui se situe évidemment sur un autre plan que celui de la compétition sportive, mais le lien est facile, alors revenons au sport avec maintenant le volley qui a aussi une histoire quelque peu similaire au basket, Vincent Nemperon, encore un sport protestant en somme, plutôt pour les hommes d'affaires au départ d'ailleurs, c'est curieux, mais grâce au YMCA encore et toujours et par l'intuition d'un pasteur.
Très peu d'années après le basket, d'ailleurs, parce que c'est en 1895, et avec la volonté d'un pasteur d'adapter le basket jugé trop fatigant pour des adultes un peu âgés.
Voilà. Et les hommes d'affaires dont je parlais, c'est cette catégorie de personnes.
Ce qui nous semble infiniment curieux maintenant, oui. Parce que quand on voit ceux qui pratiquent cette discipline, on voit bien qu'ils sont en pleine santé.
Oui, plutôt.
Mais à l'époque, c'était conçu de la même façon, comme un sport qui peut se pratiquer donc à l'intérieur. On est toujours sur la côte Est. Il faut donc pouvoir pratiquer un sport. Et le basket était jugé trop exigeant pour des personnes qui étaient trop âgées, c'est-à-dire dans les 40 ans.
Oui, c'est ça. C'est assez jeune quand même, on va dire. En tout cas, c'est moi qui le dis avec mon âge. Vincent, le volley, on retrouve encore cette dimension du collectif qui est très, très importante. C'est cette idée de ne pas gagner seul, mais de jouer ensemble, de mettre une tactique ensemble. Là encore, ces valeurs spirituelles qui accompagnent tranquillement, je dirais, ces jeux, puisqu'on est surtout dans le jeu au départ.
Et ce que le volley valorise aussi, c'est le fait de servir l'autre. Quand on regarde une épreuve, on voit bien que la personne se matche parce que quelqu'un d'autre l'a mis en position de le faire.
C'est vrai, ouais.
Et donc, ça valorise le collectif.
Notre réflexion autour de ce rapport entre sport et protestantisme va se poursuivre, Vincent, autrement maintenant, puisque j'ai la joie d'accueillir à nouveau Laurie Chamard, notre chroniqueuse du jour. Vous étiez là la semaine passée avec Frédéric Azatsu pour parler de culture, mais sous l'angle du syndrome de l'imposteur, cette semaine on change complètement, c'est plutôt basket et jogging.
Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous.
Bonjour Laurie, on vous écoute alors.
Alors aujourd'hui, Vincent Nemperon vient nous parler d'une exposition sur le protestantisme et le sport. Et comme vous l'avez dit, on va beaucoup parler de sport à l'approche des JO de Paris, qui arrivent très bientôt. Mais moi, la première question que je me pose, c'est comment on fait pour aimer le sport ? Parce que le rapport qu'on entretient avec lui commence souvent de façon chaotique. Il est 8h30, c'est lundi matin et on est en 6e. Alors déjà, l'évocation de ce souvenir, pas trop envie de se replonger dedans. Mais il le faut ! Pourquoi ? On ne sait pas, mais allons-y quand même. Le premier cours de la journée, c'est sport. Mais notre drame à nous, c'est que nous sommes en 6e D et que ce sont les 6e A, ces petits chanceux, qui ont eu le droit d'avoir le gymnase pour faire du frisbee, sans même être obligés de porter des chasubles. Pendant ce temps, nous, on se les caille à faire des tours de terrain interminables à l'extérieur pour s'échauffer, parce qu'en plus on est asthmatique. Et le programme d'après, c'est rugby. Donc il va falloir faire des plaquages, on est en plein mois de janvier, et la terre, c'est de la boue. Nous, contrairement au 6e A, on a des chasubles, ils sentent mauvais et ils sont sales. Et en plus, une fois sur deux, on oublie ses chaussures, on se prend un mot dans le carnet. Il n'y a pas de meilleur moyen pour plus mal commencer une semaine. Et je vous parle même pas du cross, parce que ça, c'est 10 ans de thérapie après.
Alors, je pense que ça va rappeler des souvenirs à beaucoup de monde. Et puis, je vois donc que pour vous, personnellement, Laurie, ces cours de sport vous ont laissé de jolies traces. Un mélange de traumatisme et puis de jalousie, peut-être aussi un peu.
Toute ressemblance avec des faits personnels réels n'est que coïncidence, Jean-Luc. Donc, certains partent avec une base qui n'est pas super. Et souvent, ça change un peu à l'âge adulte, parce que des gens on peut choisir de faire du frisbee et pas du rugby. Et parce qu'on nous dit aussi que si on a mal au dos, c'est potentiellement lié au fait qu'on reste 6 heures sur notre chaise au boulot et que notre divertissement, c'est d'aller s'asseoir 2h30 dans un ciné. Donc il faut un peu les faire bouger, ces muscles. Parce que quelle est la promesse du sport ? Eh ben, c'est nous maintenir en bonne santé. Alors pourquoi on n'aime pas un truc qui est bon pour nous ? Il y a une vidéo qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux récemment où Cécile Duflo parle de l'invention d'un type de ceinture de sécurité simple à mettre en place et explique que Volvo a décidé de ne pas déposer le brevet pour que les constructeurs puissent la mettre en place dans toutes les voitures. Mais les constructeurs, ils la mettent qu'en option et les gens ne la prennent pas. Par la suite, elles sont installées partout à l'avant, mais les gens ne la mettent pas. Alors que c'est juste une question de « est-ce que je veux mourir, moi, personnellement, ou pas ?» Tout ça pour dire, on n'est pas très bon pour choisir ce qui est bon pour nous. Et c'est pareil avec le sport, ça demande un effort, et on est mieux au ciné, on est d'accord.
Oui, alors si vous allez sur le cinéma, avec moi, on va perdre le sport de vue, je pense. Bon, mais c'est du sport qu'on parle, Laurie, donc je vous laisse continuer.
Oui, et d'ailleurs, parlons d'une autre promesse du sport qui est similaire à celle du cinéma, c'est de nous faire vivre des grands moments, des retournements de situations improbables. À l'exemple du championnat d'Europe de 4x400 mètres féminin en course relais, la dernière coureuse française, Floria Gay, perd un peu de temps au passage de relais et elle est loin derrière les trois premières coureuses qui sont en plus les favorites. Et alors les commentateurs voient ce qui se passe, ils sont défaitistes évidemment et on les entend dire « Ah là, il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas hein. ». Et puis Floria, elle donne tout ce qu'elle a mais malheureusement ce ne sera pas suffisant. Et puis soudain, elle remonte. Ils disent alors « Alors peut-être !» Elle rattrape les autres coureuses et alors là, les commentateurs se déchaînent quitte à faire saturer leur micro. « Elle va passer encore !» Et les Françaises sont championnes d'Europe. Alors c'est sûr qu'on vit rarement ce même genre d'émotion au cross du collège, je vous l'accorde, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent du sport pour qu'on puisse en profiter. Alors j'ai parlé des promesses que nous fait le sport, mais votre exposition, Vincent Nemperon, que vous venez présenter, porte aussi sur le protestantisme. Et la Bible, comme vous l'avez dit, a une vision sur le sport. Bon, vous allez me dire qu'elle détruit un peu tout ce que je viens de dire quand Paul écrit à Timothée « L'exercice physique est utile à peu de choses, la piété, elle, est utile à tout, puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir ». Mais c'est surtout pour dire, le sport, ok, ça va nous permettre de ne pas être plié à 90 degrés quand on aura 60 ans et un tassement de vertèbres. La piété, c'est plus important parce que ça voit au-delà de nos 40 prochaines années. Et Paul utilise la métaphore de la course pour parler de la foi lorsqu'il écrit à Timothée « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et là-dessus, il diffère de celui qui a participé à réinstaurer les JO modernes, Pierre de Coubertin, qui disait « L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Alors qui de Pierre ou de Paul a raison? En tout cas, il reste à définir si on arrive à savoir ce qui est bon pour nous-mêmes. Et à cette question, tout ce que je peux avancer, c'est que s'il y a bien une chose dont on est sûr qu'elle n'est pas bonne pour nous, ce sont les chasubles.
Surtout si elles sentent mauvais. Et pour Noël prochain, je me note de vous offrir un frisbee, donc, qui rime merci. En plus avec Laurie. Merci en tout cas Laurie, et à très vite pour une autre chronique dans Soleil.
Merci.
Vincent Nemperon, les panneaux de l'exposition à vos marques pour les JO, protestantisme et sport abordent aussi le sport adapté, avec notamment l'engagement de la fondation John Bost sur la question. Alors j'en profite pour dire que John Bost est avec nous dans le carême protestant cette année et que c'est la dernière aujourd'hui à 16h cet après-midi, donc la dernière de ces émissions proposées par la fondation John Bost. Il y a aussi dans l'exposition quelques aspects plus d'ordre spirituel et puis quelques portraits de grands sportifs protestants français. Revenons sur le sport adapté, Vincent Nemperon. Je crois que c'est quelque chose qui est important pour vous là, dans cette exposition.
D'abord, c'est quelque chose qui est peu connu, puisqu'on connaît les Jeux Olympiques, on connaît les Jeux Paralympiques pour les personnes qui ont un handicap physique. Le sport adapté concerne des personnes qui ont une déficience intellectuelle, mentale, qui parfois est associée à des troubles psychiques. Certains ont peut-être vu le film « Champion », qui oui. est sorti en 2023 sur une équipe de basket et qui entre tout à fait dans ce cadre du sport adapté. Et ça a été structuré par la sœur du président Kennedy, dont la propre sœur pratiquait le sport avec elle et était déficiente mentale. Et elle a organisé une compétition tous les deux ans qui s'appelle les Special Olympics, réservée aux enfants et aux adultes handicapés mentaux. Et c'est quelque chose de très important en France qu'on connaît peu, mais par exemple la Fédération française de sport adapté, c'est 65 000 licenciés.
Et donc le protestantisme a été aussi là porteur enfin permettant de développer tout cela.
Et donc le protestantisme n'est pas à l'origine, mais c'est associé à ça, et notamment en France avec la fondation John Bost, qui est un vivier de licenciés.
Merci beaucoup Vincent Nemperon. Pratiquement cette exposition, eh bien, on peut la voir grâce à des paroisses qui l'organisent un peu partout en France. Et on peut retrouver avec le site de l'EPUDF, l'Église protestante unie de France, donc toutes les infos pour aussi éventuellement louer cette exposition et voir les panneaux.
Tout à fait, très facilement. Il y a aussi pour ceux qui souhaitent bénéficier de l'exposition, un QR code qui permet d'avoir un podcast. Et des livrets pour les jeunes, pour les 7-11 ans et pour les 11-13 ans. Et une traduction en anglais était faite par une paroisse de l'inspection luthérienne de Paris C'est donc une œuvre collaborative, même si à l'origine, c'est le consistoire de la Dordogne qui a créé cette exposition.
Et puis, je rappelle encore que l'Alliance biblique donc édite une revue et il va y avoir également une autre exposition qui va pouvoir tourner. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces liens entre protestantisme et sport, eh bien, veillez sur Internet, sur tout ce qui est offert et vous allez découvrir plein de belles choses. Et puis, on en reparlera donc tous les mois dans Solae, au moins une fois, avec une émission consacrée aux liens entre sport et foi. Avant de nous quitter, une page littéraire faite de quelques recommandations d'ouvrages récents, alors que nous entrons dans cette semaine pascale, un livre aux éditions Urania, Redécouvrir Pâques, une expérience à vivre en famille, de Barbara Riach. Un recueil interactif joliment illustré, fait de méditations et de textes bibliques, tout en laissant place à une discussion dirigée, des espaces pour la créativité des enfants. Chez Olivier Tan, Les Pères du Désert vous parlent, Les Mères du Désert aussi, de Michel Barlow, illustré avec humour par Sylvie Lucel. Vous y trouverez des portraits de plusieurs de ces chrétiens surprenants, dont les paroles ou les propos souvent un peu farfelues, n'étaient en fait que le déguisement de leur foi ardente et communicative. En prolongement direct aux éditions du Cerf, Acadia, Le Diable au désert d'Adrien Candiard. Il s'agit du texte d'une pièce de théâtre menée à deux voix, un dialogue qui devient une forme de combat entre un moine au désert et le diable, comme une méditation spirituelle sur ce qui est peut-être parfois considéré comme le mal-être le plus contemporain. Je parle ici de la dépression. Labor et Fides édite le superbe catalogue de l'exposition qui vient de se terminer au musée de la Réforme à Genève sur Rembrandt et la Bible. Il s'appelle Gravure divine. Il vient compléter d'ailleurs admirablement cette exposition et je vous le recommande vraiment comme un très très beau livre à avoir. Encore chez Labor et Fides, à noter la réédition de Traces vives, un petit bijou de poésie sous forme de paroles liturgiques pour aujourd'hui, des textes signés par trois autrices remarquables, Lita Basset, Francine Carillo et Suzanne Schell. Enfin, pour terminer, chez Calman Lévy, dans un autre genre, c'est un roman d'aventure, Les Exaltés de Gérard Mordillat, qui nous propose de découvrir l'une des faces sombres de la réforme, à savoir la guerre civile qui a suivi la rupture avec l'Église catholique et la réforme proposée par Luther. Rien de mieux qu'un roman pour comprendre tous les enjeux assez complexes et puis découvrir une époque passionnante, malgré tout, mais terrible à la fois. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Max James et avec Manuel Couturier à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org et à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin de 10h à 10h30 sur France 2, Présence protestante poursuit sa collection de documentaires sur la vie et les coulisses d'églises protestantes, ses portraits d'églises, avec ce matin, l'Église protestante unie manque la jolie en région parisienne. Mais sur France Culture, à suivre les informations puis talmudiques présentées par Marc-Alain Wacknin. Je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun, sans oublier que nous nous retrouvons donc à 16h pour l'ultime rendez-vous du carême protestant avec aujourd'hui le pasteur Pierre de Mareuil de la Fondation John Bost.